Dans l'émission La Voix du Colibri, nous rencontrons Erwan Lecoeur, un sociologue et politologue qui nous raconte une légende avant de nous parler de sa goutte d'eau. On est sous un sol, pas loin d'une forêt. J'utilise le mot forêt parce qu'on entend souvent parler de cette histoire avec la forêt qui brûle. Cette histoire qui est une légende que je vais te demander de me raconter.
Alors moi j'ai découvert cette légende du colibri en découvrant en quelque sorte aussi les colibris. Je savais qu'elle existait, cette vieille légende. Et dans mon activité, dans mon parcours, j'ai donc vu que naissait un mouvement autour de cette légende. Et j'ai trouvé ça très malin, très intelligent au départ, de reprendre cette légende qui permet, je crois, d'abord à chacun de se sentir enfin en charge de quelque chose, d'un petit, tout petit bout de ce grand changement que de plus en plus de gens, de plus en plus de Français attendent, espèrent, attendent à plus ou moins long terme en tout cas. Et je trouve que cette petite légende, alors dans mon métier, qui est un métier de sociologue, de quelqu'un de rationnel, de quelqu'un qui rencontre des gens qui font de la politique, des gens qui veulent plus ou moins changer le monde à leur échelle, j'avais dès l'origine trouvé que ce petit colibri incarnait bien cette sorte de difficulté à se mettre en mouvement que beaucoup de gens ressentent dans nos sociétés. Ce que je vais appeler, pour faire un peu pompeux peut-être, mais quand même c'est une bonne expression, cette forme de crise du sens dans laquelle nous sommes tous plongés depuis maintenant de nombreuses années. Ces crises dont on nous dit qu'elles sont financières, économiques, puis sociales, puis ceci écologique, évidemment, mais dont la crise financière récemment nous a montré qu'elle pouvait frapper très fort, très durement, et l'ensemble du monde. Et donc à partir de là, moi ce que j'observe dans cette activité que j'ai, je regarde les sondages, je fais des entretiens qualitatifs, je regarde comment évolue la société dans ces grandes dimensions. Et là, il y a eu, je pense, avec ce mouvement des colibris que j'observe, que je regarde depuis plusieurs années, il y a eu la tentative de dire, où que vous soyez, si petit que vous soyez, si finalement déconnecté que vous soyez de la réalité d'aujourd'hui ou de celle que vous espéreriez, vous pouvez faire quelque chose, un petit quelque chose, mais néanmoins, vous le faites. Et c'était ça, cette légende, en fait. C'est cette histoire du colibri qui rapporte un peu d'eau pour éteindre la forêt en feu dans son petit bec, et quand tous les animaux le regardent et lui demandent ce qu'il fait et à quoi ça peut bien servir, il répond qu'évidemment, peut-être qu'il n'arrêtera pas le feu, bien sûr, mais au moins il fait sa part. Il fait sa part de colibri. Alors moi, si je suis un colibri, parce que je pense qu'être un colibri, et plus je vois les gens qui sont ici, et plus je le ressens comme ça, et plus je l'analyse aussi comme ça, c'est d'abord un état d'esprit, c'est-à-dire le fait à un moment donné dans sa vie de tous les jours d'avoir deux choses. D'abord le sentiment renforcé que l'on veut contribuer à un changement vers un monde un peu meilleur, une forme de transition vers un monde qui échapperait aux crises dont je parlais précédemment. Toutes ces crises ajoutées, ce système crisique, comme dirait Edgar Morin. Donc la première chose, c'est ça pour moi, être un colibri, c'est dans sa vie de tous les jours se dire « moi je contribue là où je suis ». Je ne vais pas forcément changer ma vie pour ça. Je ne suis pas obligé de changer ma vie. Mais là où je suis, là dans quoi je suis, et dans ce que je fais, et dans ce que je dis aussi, je vais contribuer à ce changement global, à ma petite échelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, être colibri, c'est peut-être aussi ressentir le fait qu'on n'est plus seul. On n'est plus tout à fait seul à le faire, chacun dans son coin. C'est-à-dire que l'idée, je pense, assez géniale des initiateurs de ce mouvement, c'est d'avoir dit à un moment, regroupons-nous, voyons notre force en termes de nombre, mais aussi notre force en termes de reliance. Et d'une certaine façon, à nouveau, je reprends ma casquette à moi, dans la société, je suis sociologue, j'analyse les travers de nos sociétés, ce qui leur arrive, j'essaie d'y trouver quelques solutions ou autres. Et quand je regarde ce que font les colibris, c'est qu'ils recréent un lien social qui a disparu dans beaucoup d'endroits, dans nos sociétés, et qui manque tellement que d'une certaine façon, cette absence de lien social, cette absence de gentillesse entre les gens aussi, tout simplement, au jour le jour, cette absence d'esprit de quartier, d'esprit de corps, d'appartenir à quelque chose à un moment donné, ou de faire groupe avec d'autres, eh bien ici, les gens, on sent bien, c'est cela qu'ils viennent chercher d'abord, et ensuite, fort de cela, renforcé chacun par la présence, la coprésence des autres, eh bien ils se sentent plus forts et ils vont pouvoir éventuellement modifier un certain nombre de choses ou appeler à des changements. Et c'est ce qu'ils font ici, c'est-à-dire qu'ils font une sorte de, non pas de programme, mais de feuille de route, de recommandations, de propositions pour changer les choses. Et ils le font d'autant mieux qu'ils se sentent plus forts, parce qu'ensemble. Et c'est ça le fond de l'histoire de nos sociétés, c'est que pour changer les choses, avant tout, il faut se regrouper. Seul, on ne peut rien. La société entièrement ne change jamais. En tout cas, elle ne change pas réellement. Ceux qui changent et ceux qui font les changements ont toujours été des groupes sociaux, des groupes humains qui se sont rassemblés à un moment, qui ont décidé de porter une idée, une vision, quelque chose, de se donner les moyens de la porter. Et ça a toujours été comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Il y a des théories là-dessus, la théorie des minorités actives, par exemple, de Serge Moscovici. Il y a des théorisations. Et puis ici, ben, c'est la pratique, c'est les outils, les méthodes, les façons de faire. Et ces gens qui sont ici, que à la fois j'observe et dont je me sens partie prenante, évidemment, au bout d'un moment, sont en train d'inventer cela. C'est-à-dire cette façon de se regrouper pour se dire, ensemble, nous serons plus forts, individuellement, nous pourrons agir. Et au bout d'un moment, tous ces changements que nous voulons pour nous, et autour de nous, eh bien, ils auront un impact sur le reste du monde. Ça s'appelle tout simplement avoir une influence sociale.
Avant d'aller plus loin, on va quand même se présenter. Donc, je ne connais que ton prénom, Erwan. Bonjour Erwan, qui es-tu ?
Bonjour Alex, ben, je suis Erwan, donc mon nom c'est Le Cœur. Voilà, je suis quelqu'un qui observe justement dans la société, à la fois la société telle qu'elle est, comme je le disais, c'est mon, entre guillemets, mon métier de sociologue. Je ne donne pas de cours, ou peu, j'en donne quelques-uns, mais mon autre activité, c'est de proposer à des organisations ou à des gens qui font, par exemple, de la politique, de leur donner une vision de choses qu'ils ne connaissent pas forcément, qui sont des attitudes humaines, des choses comme ça. Et puis, évidemment, dans nos sociétés, et parce que les politiques sont pressées, ils me demandent rapidement, mais comment je fais pour changer ça, c'est-à-dire comment j'applique, comment je fais de la communication, comment je fais, comment je réfléchis à une meilleure organisation, comment, voilà, toutes ces choses-là, c'est ça mon métier, c'est ça que j'échange, que je vends, donc, contre de l'argent en l'occurrence, parfois contre des services. Je suis donc ce qu'on appelle un consultant, ce qui ne veut pas dire grand-chose, voilà. Et puis j'écris aussi des livres sur la politique en général, ce qui fait que je passe parfois à la télévision pour parler soit du Front National, qui est mon sujet de thèse au départ, soit des écologistes en politique, qui est le sujet de mes derniers livres en date.
Je vais essayer de m'intéresser, avant d'aller plus loin dans l'interview, un petit peu à Erwan. Hein, qu'est-ce qui t'a amené un jour à te poser des questions sur la société, sur l'homme, sur le mode de gouvernance ?
Ben, je crois qu'on est, nombreux à en développer. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, c'est que sociologue, c'est à la fois une occupation, mais c'est difficilement un métier, puisque tout le monde l'est un petit peu. Chacun observe la société autour de lui et devient un peu sociologue de sa propre société. Moi, ce qui m'a peut-être poussé à me poser des questions, c'est d'abord, en effet, assez tôt, à la fois le choix d'une formation en sciences politiques, puis en sociologie, et puis des grandes questions existentielles sur le monde, l'histoire du monde, et notamment la question des fascismes. Originellement, c'est ça qui m'a vraiment marqué, je pense, adolescent presque. Et j'ai donc choisi d'étudier ce phénomène, les fascismes, les différentes formes. Comment est-ce qu'on avait pu, à des époques variées peut-être, comment l'Europe, comment le monde pouvait s'adonner à cette vision du monde et à ce qu'elle comportait derrière, c'est-à-dire à des organisations particulières, à des façons de réagir, à des façons de mettre en avant des boucs émissaires pour régler soi-disant un problème social, ce qui a pu avoir lieu en France. Et je l'ai fait dans le cours des années 80 et 90, c'est-à-dire au moment où en Europe, monter un certain nombre de mouvements que j'appellerais proto-fascistes et qui commençaient sérieusement à prendre de l'espace et que l'on voit de plus en plus aujourd'hui et en France particulièrement avec le Front National et le phénomène Jean-Marie Le Pen. Voilà, ça a été mon premier grand sujet d'étude après les fascismes en général. Et concurremment, c'est-à-dire à côté de cela, en essayant de comprendre ce phénomène et plutôt, je le concède, de le combattre en tout cas dans ses effets et puis aussi dans les causes qui pouvaient amener à ça, j'ai sans doute, en croisant des gens sur le chemin, en étant impliqué dans des mouvements divers et variés, parce que j'avais 20 ans, et donc des mouvements de jeunes, on va dire, j'ai développé toute une vision qui était que notre monde était au bout d'une histoire, d'une façon de voir le monde, qui était la façon que j'appellerais productiviste, notamment, qui était, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, qui était une façon qui considérait que voilà, la planète est à notre disposition en permanence. Et puis très tôt, j'ai considéré, pas seul, mais en rencontrant des gens, en lisant aussi, que l'écologie au sens large du terme pouvait être une réponse qui justement manquait dans nos sociétés, que j'appellerais, alors le terme est galvaudé, donc il va apparaître un peu bizarre, mais que j'appellerais clairement une idéologie, c'est-à-dire une vision du monde, tout simplement, c'est-à-dire quelque chose qui nous porte et qui nous donne à voir un horizon, un autre horizon que celui d'aujourd'hui. Et d'une certaine façon, plus j'avançais dans mes travaux et dans mes expériences écologistes ou politiques diverses, et plus j'ai cru me rendre compte, en tout cas je le pense, qu'il y a de plus en plus de grandes façons de voir le monde pour l'avenir, qui vont suppléer et supplanter celles qui sont actuellement à l'œuvre, qu'on va appeler la gauche et la droite, avec les différences de moins en moins fortes entre les deux camps. Et donc je pense qu'il y a deux visions qui émergent, qui sont un peu les challengers de l'avenir, qui sont d'un côté une forme, je le disais tout à l'heure, de proto-fascisme, de non-règlement des crises, mais en mettant en scène un faux conflit contre les étrangers, contre les élites, les ceci, etc., etc. Donc ça, c'est une vision du monde et qui commence à prendre de l'importance et qui, je ne le cache pas, me fait peur, ou plus exactement, ne me convient pas, m'agace. Je trouve qu'elle ne répond à aucun des vrais soucis et des vrais problèmes qui se posent à nos sociétés depuis des années. Et puis de l'autre côté, une autre vision que j'appellerais globalement celle de l'écologie, alors en politique, l'écologie qui s'est investie en politique, mais aussi une écologie sociale, une écologie plus humaine, plus intellectuelle aussi, une façon de voir le monde qui, à mon avis, clairement aujourd'hui, pourrait être une forme de vision du monde plus optimiste, à la fois alarmiste dans ses ressorts, mais optimiste, mais également avec de vraies solutions. Et c'est ça qui me fait faire ce choix-là à un moment donné, dans ma vie et dans mes écrits et dans mon analyse de la société, c'est qu'il y a des façons de sortir de ces crises, parce qu'il n'y a pas une crise, il y en a beaucoup plus qu'une, il y en a différentes, et notamment celle des ressources, mais aussi celle des consciences, je pense, c'est-à-dire la conscience de soi, la conscience de qui on est, où on va, enfin des choses assez philosophiques, mais qui ont des impacts au jour le jour. Je pense que l'écologie, au sens très large du terme, pourrait être une façon de répondre à tout cela.